Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Intéressons-nous aujourd'hui à la constellation du Bouvier. Cette constellation boréale est facilement repérable grâce à son étoile la plus brillante, Arcturus. On la repère facilement car c'est l'étoile brillante que l'on trouve en prolongeant la queue de la Grande Ourse. Arcturus est dans le bas de la constellation du Bouvier, qui dessine comme un grand cerf-volant. Cette constellation porte le nom de Bouvier depuis longtemps. Cependant, il est difficile de dire ce que ce Bouvier représente. Le Bouvier est celui qui garde et conduit les bœufs, un cow-boy en quelque sorte. Selon une version, il s'agit d'un laboureur, qui conduit sept bœufs, Septem Triones, de la constellation de la Grande Ourse, à l'aide de ses deux chiens, Chara et Astérion, qui sont la constellation des chiens de chasse. Les bœufs seraient liés à l'axe polaire et le Bouvier perpétuerait la rotation des cieux. Le Bouvier pourrait également être Philémélos, l'inventeur de la charrue, ce qui plut à sa mère Déméter, déesse des moissons, qui le fixa définitivement dans la voûte céleste. Une autre version décrit le Bouvier comme un vigneron nommé Icarius, qui autorisa Bacchus à inspecter ses vignes et lequel lui révéla le secret de la fabrication du vin. Icarius invita ses amis à déguster le breuvage, mais tous en burent trop et ne se réveillèrent que le lendemain, en pensant qu'Icarius avait tenté de les empoisonner. Par vengeance, ils l'assassinèrent dans son sommeil. Le nord du Bouvier a parfois été nommé le Cadran Mural, constellation créée par l'astronome Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, qui souhaitait placer dans les cieux son principal outil de travail. La constellation a disparu depuis, mais elle a laissé le nom des Quadrantides, qui est un essaim de météores provenant de cette partie du ciel au début du mois de janvier.
Ces hivers enneigés, à construire des igloos et rentrer les pieds gelés, juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement. Une étoile filante.
La principale étoile de la constellation du Bouvier, c'est Arcturus. Observée depuis longtemps, elle a laissé des traces dans de nombreuses mythologies. Le nom Arcturus vient du grec ancien Arcturos, qui est formé de Arctos, l'ours, et Ouros, le gardien. Il signifie donc le gardien des ours. Probablement, c'est la raison de sa proximité avec la grande et la petite ours. Elle est citée pour la première fois par Hésiode. Son lever héliaque, à la mi-septembre, servait de point de repère aux Grecs. Son appartenance à la constellation du Bouvier illustre le mélange entre la mythologie grecque, les ours, leurs gardiens, et la mythologie romaine, où la grande ours représente une charrue tirée par des bœufs, d'où la présence du Bouvier. En astronomie chinoise, cette étoile est appelée Dajiao. Elle représente à elle seule un astérisme, qui symbolise le roi du ciel. L'identification étant manifestement motivée par la grande brillance de l'astre. En hawaïen, Arcturus se nomme Okulea, l'étoile du bonheur. Elle est l'étoile zénitale de l'île principale d'Hawaï et permettait aux navigateurs venant de l'hémisphère sud de rejoindre aisément les îles du groupe Sandwich. La pirogue double traditionnelle, Okulea, est la première des temps modernes à réussir une traversée entre Hawaï et Tahiti sans instrument de navigation. Et elle tire son nom de cette étoile. Le diamètre d'Arcturus, c'est 25 fois celui du Soleil. Elle est de couleur orangée. Arcturus est une étoile âgée, qui a évolué en une géante rouge. À terme, elle terminera sa vie en nébuleuse planétaire. Cette phase durera encore quelques dizaines de milliers d'années, laissera apparaître son cœur mis à nu. L'étoile évoluera alors vers le stade ultime de naine blanche. Arcturus a la particularité de se déplacer sur le fond du ciel plus rapidement que la plupart des étoiles, d'environ 1 degré en seulement 1600 ans, ce qui en fait l'étoile brillante au mouvement propre le plus élevé. En astronomie, on appelle mouvement propre le mouvement apparent des étoiles sur la sphère céleste vue de la Terre. Il fut découvert en 1718 par Edmund Halley, le même que la comète de Halley, lorsqu'il remarqua que les positions de Sirius et d'Arcturus s'écartaient de plus d'un demi-degré de celles mesurées par Hipparque environ 1850 ans auparavant. À première vue et à mesure d'une vie humaine, les étoiles semblent occuper une position fixe sur la sphère céleste. Cela signifie qu'elle formerait toujours les mêmes astérismes. Par exemple, la grande ourse aurait exactement la même apparence dans un siècle ou dans un millénaire que celle qu'elle a un peu actuellement. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Des observations précises et étalées dans le temps montrent que les constellations changent lentement de forme et que les étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres. En général, un mouvement propre élevé est synonyme d'une étoile proche de la Terre. Pour comprendre ce phénomène, il suffit d'observer le paysage quand vous êtes en voiture. Les éléments proches, arbres, maisons, passent vite devant vos yeux, alors que les éléments lointains, les villages ou les montagnes, donnent l'impression de ne pas bouger. Arcturus est assez proche de la Terre, puisqu'elle n'est qu'à 36 années-lumière. Tiens, profitons-en pour parler un petit peu des distances en astronomie. D'abord, partons de la Terre. L'unité internationale pour mesurer les distances sur Terre, c'est le mètre. Tout le monde voit à peu près ce que représente un mètre. Nous utilisons fréquemment le kilomètre dès qu'il s'agit de parler de distance entre village, région ou pays. Mais à l'échelle de l'espace, utiliser les kilomètres, voire les mètres, c'est vraiment trop fastidieux. Par exemple, l'objet stellaire le plus proche de nous, c'est la Lune, notre satellite naturel. Elle est en gros à 400 000 km de la Terre. Cette distance varie en fait entre 356 et 406 000, mais restons simples, prenons un nombre rond, 400 000. 400 000, ça fait beaucoup. C'est une quantité difficile à représenter. Et encore, la Lune est très proche de la Terre. Le Soleil, lui, est à 150 millions de kilomètres. Alors là, on a changé d'échelle. On a multiplié par près de 1000. Et encore, le Soleil est l'étoile la plus proche de nous. La seconde étoile la plus proche, Proxima, dans la constellation du Centaure, est à une distance qui, exprimée en kilomètres, s'écrit avec 14 chiffres. Alors là, une autre unité est nécessaire. La plus communément utilisée, c'est l'année-lumière. C'est-à-dire, c'est la distance parcourue par la lumière en une année dans le vide. Mais alors, comment sait-on quelle distance cela représente? Il faut connaître la vitesse de la lumière. Dans notre quotidien, nous avons l'impression que la lumière est instantanée. Mais dans les calculs de longue distance, sa valeur a un effet notable. L'histoire de la mesure de la vitesse de la lumière est passionnante. Laissez-moi vous la raconter. Cela commence au XVIIe siècle. À cette époque, le problème scientifique de la détermination de la longitude posait d'importants problèmes pratiques pour la navigation et la cartographie. En effet, il est assez simple de déterminer la latitude, qui est la position sud-nord d'un point. Sa mesure est maîtrisée depuis l'Antiquité, grâce au soleil et un outil qu'on appelle le gnomon. Mais la longitude, elle, est beaucoup plus compliquée à déterminer, surtout en mer. Devant le nombre d'accidents maritimes dus à l'absence de méthodes suffisamment précises pour déterminer la position est-ouest des navires, le Parlement britannique, sous la pression des commerçants et des armateurs, vota une loi. Dans cette loi, dite le Longitude Act de 1714, la Grande-Bretagne offrait un prix de 20 000 livres sterling, plusieurs millions d'euros d'aujourd'hui, à toute personne capable de concevoir un moyen de déterminer la longitude de façon fiable, en toutes circonstances, à bord d'un bâtiment en mer. Beaucoup de scientifiques se sont attelés à la tâche, persuadés que la solution viendrait de l'observation précise des étoiles et des astres. Parmi ces scientifiques, le jeune Danois Ole Rømer a fait des observations des satellites de Jupiter, plus particulièrement de Io, et mesure précisément les moments où ces satellites sont éclipsés par Jupiter, c'est-à-dire le moment où ils sont cachés par la planète et ils disparaissent derrière elle. Il se rend compte que la durée des éclipses varie au cours de l'année. Comme il était assez confiant que la période orbitale de Io ne change pas réellement, il en a déduit qu'il s'agissait d'un effet d'observation. Les trajectoires orbitales de la Terre et de Jupiter lui étant disponibles, il remarqua que les périodes au cours desquelles la Terre et Jupiter s'éloignaient correspondaient toujours à un intervalle de temps plus grand entre les éclipses. Inversement, les moments où la Terre et Jupiter étaient proches l'une de l'autre sont toujours accompagnés d'une diminution de l'intervalle de temps entre les éclipses. Rømer en induisit que cet écart pourrait être expliqué de manière satisfaisante si la lumière possédait une vitesse finie. qu'il calcule comme équivalente à 220 000 km par heure. Des mesures modernes avec des outils précis fixent au XXe siècle la vitesse de la lumière à 299 792 458 mètres par seconde. Souvenez-vous simplement de la valeur 300 000 km par seconde. Si nous revenons à notre année-lumière, ça veut dire que cette distance, c'est 300 000 fois le nombre de secondes dans une année. Une année julienne, c'est-à-dire 365,25 jours. Ça nous donne donc un calcul qui donne 300 000 fois 3 557 600, soit un petit peu plus de 9 500 milliards de kilomètres. Arcturus est donc à 36 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que quand j'observe Arcturus, la lumière qui frappe mon œil a été émise il y a 36 ans. Quand j'étais encore en maternelle, quoi. Et pour les étoiles les plus lointaines, la distance est de plusieurs milliers d'années-lumière. Par exemple, Rho de Cassiopée. C'est la plus lointaine des étoiles visibles à l'œil nu. Elle est à 8600 années-lumière. Ça veut dire que la lumière qui nous parvient aujourd'hui a été émise à l'époque du Néolithique, la fin de la préhistoire. Quand nous regardons loin, nous regardons dans le passé. Et plus nous regardons loin, avec des télescopes, plus nous regardons dans le passé. Les scientifiques, en observant d'autres longueurs d'onde que la lumière visible, peuvent même remonter presque à l'origine de l'univers. C'est ce qu'ils font quand ils mesurent le fond diffus cosmologique, ce rayonnement micro-ondes qui remonte à 300 000 années à peu près, après le Big Bang, après la création de l'univers. Un rayonnement qui a donc 14 milliards d'années.